Bonjour, Marco.
Compte à rebours.
L'émission de contes, bien sûr, d'histoires, de légendes, de toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, c'est un vrai conte à rebours, puisque je vais raconter une histoire qui dure 30 minutes et on va la faire durer 20 minutes seulement. Donc on commence tout de suite. C'est une très vieille histoire qui nous vient de Lomagne et qui nous parle d'un garçon qui s'appelle Jean. Alors, avant de vraiment commencer l'histoire, quand même, quelques petites précisions sur ce personnage de Jean. Et en fait, il s'appelle Jean, mais tout le monde l'appelle Jean le Nigo. Et oui, sa mère, son père, ses frères, tout le monde l'appelle Jean le Nigo. Dans le pays, on le connaît sous le nom de Jean le Nigo. Pourquoi ? Il fait des drôles de choses. Vite fait comme ça, quelques... Tenez, une fois, pour vous donner un exemple... Son père et ses deux grands frères étaient partis couper du bois. Lui, bien sûr, on ne lui demandait pas. Il était nigo, il faisait rien. Sauf que quand même, sa mère lui a dit « Tu vas porter le pique-nique. Hein, tu peux bien faire ça. » Elle lui a donné un panier avec le pique-nique pour qu'il l'amène à son père et à ses frères. Et lui, en chemin, il voit une petite mouche qui tourne autour du panier, puis deux, puis trois. Il dit « Qu'est-ce qu'elles ont, ces mouches ? Peut-être qu'elles ont faim. » Le voilà qui a l'idée de couper un bout de fromage, de le mettre sur une pierre, et effectivement, les mouches s'y jettent dessus. Elles vont chercher quelques amis, elles reviennent plus nombreuses, et le fromage est dévoré. Alors, il en coupe encore un petit bout, et puis d'autres mouches arrivent, et puis un petit bout, et puis il donne comme ça tout le fromage. Après, il replie le papier vide, il le remet dans le panier, le torchon par-dessus, et il arrive au lieu du pique-nique. Le père est content. À table ! Les deux frères arrivent, posent leurs outils, se mettent dans le pré, on déplie la nappe, on sort le pain, le vin, les pommes, et où est-ce qu'il est le fromage ? Jean, il était peut-être nigo, mais il n'était pas menteur. Il a dit la vérité, il a dit « Il y avait des mouches qui avaient faim, je les ai nourries, elles ont tout fini. » Mon Dieu, quel abruti, quel nigo, quel imbécile. Voilà le genre de choses. Tenez, une autre fois, là, après on commence vraiment l'histoire. Et il y avait ces deux frères qui étaient en train de pêcher au bord d'un ruisseau, et ils avaient attrapé deux cabots. Mais ils voulaient continuer à pêcher, bien sûr. Alors comme Jean passait par là, ils lui ont donné les deux poissons en lui disant « Porte-les à maman, à la maison, qu'elle nous les cuise pour ce soir. » Jean est parti, un cabot dans chaque main, mais les poissons, vous les connaissez, ils faisaient... C'est-à-dire qu'ils ouvraient leur bouche comme ça, et Jean qui les regardait a dit « Ouh là là, mais ils ont soif ces poissons !» Et pour les abreuver, il a eu la bonne idée de les tremper dans le ruisseau. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr ? Comme deux savonnettes, zoup, les deux poissons glissés de ses mains, partis... Et disparu. Il est rentré, il a rien dit, il s'est installé au coin du feu. Et plus tard, lorsque ses frères sont arrivés, ils ont dit à la mère, alors le poisson, il est prêt ? Quel poisson ? A dit la mère. Et tout le monde a regardé Jean devant la cheminée. Et lui, bon, je vous l'ai dit, il était pas menteur, il a dit la vérité, il a dit, mais les poissons, ils avaient soif. J'ai voulu leur donner à boire, ils sont partis dans le ruisseau. Mon Dieu, a dit sa mère. Quel abruti, quel imbécile. Voilà donc pourquoi ce Jean était appelé Jean. Tenez, une autre fois. Après, je commence l'histoire. Une autre fois, il décide d'aller se promener. Sa mère lui dit, oh, regarde, les nuages sont noirs. Prends ta cape de pluie. Et lui, il la prend. Il était obéissant. Et à peine il commence à marcher sur le chemin de la forêt que voilà des gouttes qui tombent et il arrive devant une fourmilière. Et il remarque que chaque goutte qui tombe sur la fourmilière démolit la fourmilière, l'inonde, les fourmis sont affolées, elles ont leurs œufs à récupérer, elles sont là dans une catastrophe. Alors, il a une idée, il enlève sa cape et il couvre cette fourmilière. À peine a-t-il fait ce geste qu'il se met à pleuvoir comme une vache qui pisse. Alors il reste là, debout, à regarder cette pluie géante qui s'abat. Et lorsque la pluie s'est calmée, il soulève sa cape qui était sur la fourmilière et effectivement, elle l'a protégée totalement. Rien n'est démoli, pas un endroit mouillé, toutes les fourmis sont restées au sec tranquilles. Alors, content de lui, il rentre avec sa cape sur le dos, et sa mère, le voyant rentrer, lui dit « Ah, tu vois, j'ai bien fait de te faire prendre ta cape, mais elle regarde à ses pieds, il y a déjà une flaque d'eau. » Elle lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle le touche, il est trempé comme une soupe. Et comme il n'était pas menteur, il a dit la vérité, les fourmis qu'il a protégées, mon Dieu, a dit sa mère. Quel imbécile, quel Nico. Donc, on l'appelait Jean le Nico. Et il habitait dans le pays de Lomagne. On va donc pouvoir commencer l'histoire. À cette époque, dans le pays de Lomagne, eh bien, c'était un pays, justement, et il y avait un roi. Oui, on a connu une époque où en France aussi, comme dans les royaumes d'Asie ou d'Afrique, il y avait des petits roitelets par-ci, par-là, des seigneurs qui se battaient. C'était l'époque du roi de Lomagne. Et le roi était malade. Oh, une drôle de maladie. Il s'était mis à trembler, mais sans pouvoir s'arrêter. Et au début, c'était dur, mais après, c'était pire, parce qu'il s'est mis aussi à baver. Tout en tremblant, il bavait, et c'était pas très présentable. Pour un roi, ça n'allait pas. Il s'est couché, il a fait venir des docteurs, ils ont tous dit un seul remède, manger des poires. C'était facile, il a envoyé ses serviteurs chercher des poires sur le marché. Ils sont rentrés bredouilles. Eh oui, il y avait dans le pays, à ce moment-là, une sécheresse terrible. Plus d'eau pour les bêtes, plus d'eau pour les gens, et rien, bien sûr, pour les plantes. Tous les arbres avaient séché sur pied, il n'y avait pas un fruit sur le marché. Alors, le roi, qui non seulement continuait à trembler et à baver, mais en plus, maintenant, ses yeux s'étaient mis à tourner dans tous les sens, il a dit « il faut faire quelque chose ». Il avait une belle fille, en âge de se marier, une princesse, donc sa fille. Et il a dit, je la donnerai en mariage à celui qui me portera le plus beau panier de poires. Cet avis a été placardé aux quatre coins du royaume. Bon, la Lomagne, c'est petit, c'était facile. Des soldats sont partis avec des tambours, ont annoncé la nouvelle pour ceux qui ne savaient pas lire. Et bientôt, tous les garçons de Lomagne, et même au-delà, recherchaient des poires. Ils en cherchaient partout. En ont-ils trouvé ? Non. Aucune. C'était sec. Et pourtant, il y avait un endroit où un poirier donnait des poires. C'était dans le jardin de Jean. Jean le Nico. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien, ce poirier, c'était en quelque sorte son arbre. Parce que chaque fois qu'il était un peu malheureux, un peu triste, il allait contre son tronc qui se blottissait contre cet arbre et là, il versait quelques larmes et petit à petit se consolait. Et comme il le faisait très souvent quand même, parce que chaque fois qu'on le traitait d'idiot ou d'abruti, de nigo, ça le touchait quand même, il pleurait au pied de cet arbre et les larmes de Jean, à force, avait arrosé assez cet arbre pour qu'il puisse porter des poires. C'était le seul du pays. Et le grand frère de Jean le Nigo, parce qu'il avait deux grands frères, le plus grand, a dit « Moi, j'épouserai la fille du roi. » Il a ramassé des poires, les a mises dans son panier, l'a couvert d'un torchon et est parti vers le palais du roi en disant « Je reviendrai prince. » Mais le chemin était long. Et il passait par une lande où il y avait une croisée de chemins. Quatre chemins qui se rencontraient et quatre pierres aussi à la croisée des chemins. Et sur une de ces pierres était assise une vieille. Elle le voit passer au grand frère de Jean et lui dit comme ça « Eh, où est-ce que tu vas toi d'un pas si décidé et qu'est-ce que tu portes dans ton panier ?» Le frère de Jean, il n'était pas très aimable. Il a dit « C'est pas tes oignons la vieille, je vais où ça me chante. » Et dans mon panier, j'ai les pierres. Et il a continué son chemin. La vieille l'a regardé et a dit, ah bon, des pierres tu portes, des pierres tu trouveras. Arrivé au palais du roi, on l'a fait bien vite rentrer dans la chambre du roi, parce que il allait mal. Non seulement, bien sûr, il tremblait toujours, il bavait, bien sûr, abondamment, il avait les yeux qui tournaient dans tous les sens, mais il était devenu blanc comme un linge. Vite, il a pris le panier, il a soulevé le torchon, mais là, dans le panier, au lieu de poire, il y avait des pierres. Quoi ? Tu te moques de moi ? Va-t'en avec ton sac de pierre, et le prochain qui recommence une blague pareille, il aura 100 coups de bâton. Le grand frère est rentré à la maison, en disant c'est pas la peine d'y aller, il n'y a rien à faire, je sais pas ce qui s'est passé. Et pourtant, le deuxième frère, pas Jean, qui était le plus jeune, mais le deuxième a dit, moi, j'y vais, et j'épouserai la fille du roi. Il a vidé les pierres, il a rempli le panier de poire, mis le torchon, il est parti. Toujours, sur la grande lande, à la croisée des chemins, il y avait les quatre pierres. Et sur une pierre, la vieille. Elle le voit passer. Elle lui dit, où est-ce que tu vas, toi donc? Et que tu portes dans ton panier? Il n'était pas plus aimable que son frère. Il a dit, papa, c'est pas tes oignons. Il a continué son chemin. Et dans mon panier, j'ai les cornes. Et il a continué. Des cornes, tu portes? Des cornes, tu trouveras. Arrivé au palais, on se méfiait. Attention, toi, le premier portait des pierres. Il a dit non, c'est des poires. On l'a fait rentrer dans la chambre du roi. Le roi, il allait de plus en plus mal. Non seulement, il tremblait toujours abondamment, il bavait aussi abondamment et les yeux tournaient dans tous les sens. Il était blanc comme un linge, mais la peau avait commencé à se décoller par plaques. Et c'était très douloureux. Il a pris le panier. Il a soulevé le torchon. Mais là, dans le panier, qu'est-ce qu'il a vu ? Des cornes. Quoi ? Des cornes ? Je l'avais dit. Soldat, qu'on lui donne 100 coups de bâton. Et le frère de Jean a pris 100 coups de bâton. Un coup de bâton, ça fait mal. 100, c'est terrible. Il est rentré plié en deux. Pendant 15 jours, il n'a pas pu s'asseoir ni se coucher. Et il a dit, le roi a dit que le prochain irait en prison. Ah bon, a dit la mère, le prochain ira en prison. Hé hey Jean, tu veux pas y aller ? Jean a dit oui. Il a pris le panier, il l'a rempli de poire, il a mis le torchon et il est parti. Il est parti sur la lande vers le palais du roi et toujours au même endroit, à la croisée des chemins, aux quatre pierres, il y avait la vieille assise qui lui dit « Où est-ce que tu vas, toi, comme ça ? Et qu'est-ce que tu portes dans ton panier ?» Jean, je vous l'ai déjà dit sans doute, il était peut-être un ego, mais il n'était pas du tout menteur. Il a dit « Moi, je vais au palais du roi, peut-être épouser la fille du roi. Je lui porte un panier de poires. Regarde, tu en veux une ?» Il a tendu une poire à la vieille. Qu'il a prise dans la main et en croquant dedans, elle a dit « Des poires, tu portes des poires, tu trouveras. » Jean a continué son chemin. Il est arrivé au palais du roi. On ne voulait pas le laisser rentrer. On a dit « D'abord des pierres, après des cornes et toi, qu'est-ce que c'est, des serpents ?» Il a dit « Non, c'est des poires. » Il a fini dans la chambre du roi parce que le roi allait très mal. Non seulement, bien sûr, il tremblait toujours, il bavait, tant et plus. Il avait les yeux qui tournaient dans tous les sens, il était devenu blanc comme un linge, sa peau se décollait par plaques. Mais en plus, maintenant, il avait des vertiges qui lui faisaient tourner la tête et il n'arrivait à peine à parler. Vite, il a pris le panier de poire, il a soulevé le torchon et là, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Bien sûr, des poires. Il en a pris une. Il l'a porté à la bouche. Première bouchée, ses vertiges sont partis. Deuxième bouchée, sa peau s'est recollée. Troisième bouchée, ça y est, il a repris des couleurs. Quatrième bouchée, ses yeux ont arrêté de tourner. Cinquième bouchée, ah, la bave, mais plus rien. Sixième bouchée, les tremblements ont cessé. septième bouchée, il s'est assis dans le lit, il s'est levé, il sautait partout, il était guéri. Oh ! Guérison miraculeuse ! Eh oui, et qu'est-ce qu'il avait promis le roi à celui qui lui porterait le plus beau poignet de poire et qui le ferait guérir ? Sa fille. Il a regardé Jean et il s'est dit « Ouh là là ! Ouh là là !» C'est pas que Jean était moche, hein. Mais bon, il n'était pas vraiment à son avantage. Il avait un béret qui lui décollait les oreilles parce qu'il était rentré jusqu'au fond de la tête. Il avait un pantalon trop court, tout déchiré. Il avait une vieille chemise élimée, toute pleine de taches. Pieds nus, il allait. Enfin bref, le roi s'est dit « Que va dire ma fille si je lui présente ce prétendant ?» D'accord, je l'ai promis, je l'ai dit, tu vas épouser ma fille, mais à une condition. Le roi a mené Jean dans les greniers du palais. Les greniers étaient grands. Et ils servaient, comme à l'époque, d'où le nom de grenier, à garder le grain. Il y avait là des sacs de lentilles, tout alignés contre mur, des sacs de blé, des sacs d'orge, des sacs de millet. Mais les rats étaient passés par là. Ils avaient crevé les sacs avaient coulé, le grain s'était mélangé, et tout le grenier était couvert d'une épaisse couche de grain. Orge, millet, lentilles, tout mélangé, et le roi dit « Voilà. J'aimerais que tu me remettes tout en place, les lentilles avec les lentilles, l'orge avec l'orge, le blé avec le blé, le millet avec le millet. Je reviendrai ce soir, je veux que tout soit fini, les sacs recousus et remplis. » Et il est parti. Jean, courageux, s'est mis au travail. Il a commencé à trier. Tiens, ça c'est du blé. Ah non, de l'orge. C'est vrai que le blé et l'orge, ça se ressemble. Ça, ah, ça c'est une lentille. Ah, voilà du millet et du blé. Bon, orge, blé. Il a continué comme ça à trier. Et quand il a eu fini un carré d'environ un mètre carré, une heure de temps était passée. Et il n'a pas eu de mal à calculer. Aussi nigaud soit-il, il a dit ça m'a pris une heure. Et il a essayé de compter le nombre de fois qu'il y avait une heure. Et il est arrivé à 507 heures. Ça fait quelques semaines de travail, ça. Jamais je pourrais finir avant ce soir. Il a compris vite. Il a dit le roi, c'est fichu de moi. Il ne veut pas que j'épouse sa fille. Alors il a quitté le palais. Et il s'est assis sur une pierre assez dépitée, assez triste. Et c'est à ce moment-là que dans son oreille, une toute petite voix a parlé. « Qu'est-ce qui t'arrive, Jean ? Pourquoi es-tu si malheureux ?» On lui parlait dans l'oreille, et finalement, il a vu, hein, c'était une petite fourmi. Alors Jean a tout raconté, il lui a expliqué, il lui a dit « Voilà, je dois épouser la fille du roi, mais j'ai un grenier entier à ranger, c'est impossible, il y en a pour des semaines de travail. »« Rappelle-toi, Jean, » a dit la petite voix, « un jour qu'il pleuvait, tu nous as aidés, tu as protégé notre fourmilière, on a tout été sauvés, maintenant on va t'aider. » Et la fourmi est partie et est allée chercher quelques amis, mais pas 10, ni 20, ni 30, ni même 1000, mais 1 million, plusieurs millions de fourmis sont arrivées tout en colonne, suivant Jean, et sont rentrées dans le grenier, et elles se sont mises au travail. Oh, une fourmi c'est petit, c'est vrai, ça fait pas grand chose, un grain à la fois seulement. Mais ça s'est trié, le blé, les lentilles, l'orge, et puis comme il y en avait des millions, eh bien le travail a été très vite fait. Jean n'avait qu'une chose à faire, avec la pelle, et après avoir recousu les sacs au gros fil, il remplissait ses sacs. Les fourmis ont tout trié, il a rempli le blé, l'orge, les lentilles et le millet. Et puis les fourmis sont reparties, tout était net, impeccable. Une heure après, lorsque le roi est arrivé, il était sûr que Jean n'avait pas terminé, c'était impossible. Il pousse la porte, tout est net, tout est fini. Il dit, c'est pas possible, il m'a trompé. Il a rangé le grain sans le trier. Il a ouvert un sac, mais non. Et puis, il en a ouvert un autre, il a regardé, mais non, rien n'était mélangé. Tout était fini. Incroyable, s'est-il dit. Bon, ben je l'ai promis. Tu vas épouser ma fille. Il l'a regardé à nouveau. Il a eu un choc. Il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire, ma princesse? Bon, tu vas épouser ma fille, oui, mais à une condition. Et il l'a amené derrière le palais du roi. Il y avait là une rivière boueuse qui coulait. Il lui a dit, là, il y a 5 ans, j'ai perdu 2 diamants. J'aimerais que tu me les retrouves. Ramène-les au palais. Après, tu épouseras ma fille. Le roi est rentré au palais. Jean restait assis sur la rive. Triste, malheureux, parce que il savait même pas nager. Et puis, allez-vous en trouver 2 diamants perdus il y a 5 ans. Et c'est à ce moment précis que sont sortis de l'eau 2 têtes de poisson, les cabots, qui ont dit, alors, Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Jean a tout raconté, il a tout expliqué. Et les poissons ont dit, mais rappelle-toi, un jour, tu nous as aidés, tu nous as sauvés, maintenant, on va t'aider. Ils ont plongé. Et 5 minutes avaient passé, pas plus, que les voilà qui ressortaient de l'eau en tenant chacun dans leur bouche un diamant. Jean a pris les diamants dans sa main, a remercié les poissons, il est parti au palais et le roi. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as trouvé mes 2 diamants? Montre-moi, ça doit être des bouts de verre. Il regarde, il appelle même son orfèvre, et comme c'était lui qui avait taillé les diamants avec sa grosse loupe, il a regardé, il a dit, oui, ce sont bien les diamants du roi. Incroyable. Bon, a dit le roi, j'ai promis, tu vas épouser ma fille. Et demain, tu viendras et je te la présenterai au milieu de 100 jeunes filles qui seront toutes couvertes d'un drap blanc, de la tête aux pieds. Et toi, tu devras, parmi elles, reconnaître, retrouver ma fille du premier coup. À demain. Jean est parti. Il était un peu malheureux, pensez donc. Enfin, il avait réussi 2 épreuves, il allait pouvoir épouser la fille du roi, mais allez-vous-en la reconnaître au milieu de 100 jeunes filles voilées de la tête aux pieds. D'abord, la fille du roi, peu de gens la connaissaient, elle sortait jamais du château. Lui-même, Jean, ne la connaissait pas. Et puis en plus, allez-vous en reconnaître quelqu'un couvert de la tête aux pieds? Non, il n'y avait aucun espoir. Et c'est à ce moment-là que s'est posée sur le bout de son nez une mouche. Elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Tu as l'air bien malheureux. Elle lui raconte tout. Et la mouche dit, rappelle-toi, Jean, un jour on était affamés. Tu nous as nourris avec du bon fromage. Aujourd'hui, on peut t'aider. Parce que nous, les mouches, on connaît tout le monde. On va même dans les cabinets. Alors la princesse, penses-tu? Demain, on te l'indiquera. Ne t'inquiète pas. Jean est arrivé le lendemain au palais du roi et on l'a fait rentrer dans la grande salle de bal. Il y avait là 100 jeunes filles, toutes de la même taille à peu près, rangées le long des murs, avec chacune un grand drap blanc sur la tête. Il n'y avait rien qui en distinguait une d'une autre, rien. Jean, pourtant, les a passées en revue l'une après l'autre. Il a vu 100 draps. Mais sur un de ces draps, au sommet, sur la tête, il y avait là quelques mouches. Et il a dit, ô roi, voici ta fille. Le roi s'est avancé. Il a soulevé le drap. Et il croyait pas. Lui-même ne savait pas où était sa fille. Mais si, c'était elle. Il l'avait trouvée. La princesse princesse, une fois dévoilée, a regardé Jean. Elle lui a dit « Toi, suis-moi ». Elle l'a mené dans sa chambre, elle lui a fait prendre un bain, elle lui a donné des habits de prince, elle lui a donné un chapeau, des chaussures. Et là, il était beau. D'ailleurs, elle en est tombée amoureux, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, enfin bref, Jean, qui était traité par tout le pays de nigaud, d'abruti, d'imbécile, finalement, est devenu prince. Et lorsque le roi a quitté les affaires, vu son âge, ben c'est lui qui a été roi. Comme quoi, si on vous traite d'abruti, d'imbécile, de nigaud, mais ne vous inquiétez pas, vous finirez comme Jean, sans doute un jour, par devenir roi. Bon, c'était Compte à rebours, vite fait, bien fait. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, c'était Marco. Ciao.